Bonsoir, comment allez-vous? Le maître bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh, dans « Il n'y a ni mort ni peur » édité chez Pocket, nous raconte cette parabole du Bouddha. Un soir, en rentrant chez lui, un jeune commerçant voit que sa maison a été pillée et incendiée. Affolé, il cherche partout son petit garçon et tombe sur un corps calciné. Ivre de douleur, il le prend pour son fils et accomplit la cérémonie des défunts, puis vit dans un désarroi total. Il ne sait pas qu'en réalité son fils a été enlevé par les bandits. Une nuit, le garçon réussit à s'échapper et à rejoindre la maison reconstruite depuis. Exténué mais excité, il frappe à la porte. « Qui est là ?» demande le père. « C'est moi, c'est moi, c'est moi ton fils !» répond le garçon à travers la porte. « C'est très méchant de me dire ça. Mon fils est mort il y a 3 ans et j'ai toujours ses cendres avec moi. » Le petit garçon continue de frapper, de pleurer. Il supplie son père de le laisser entrer. L'homme ne veut pas en démordre. Son fils est mort et celui qui frappe est fou, cruel et malhonnête. Le petit garçon finit par s'en aller et le père vient vraiment de perdre son fils. Le Bouddha a dit que si vous êtes prisonnier d'une idée et que pour vous cette idée est la vérité, vous passez à côté de la possibilité de connaître la vérité.
Bonjour, je m'appelle Maud, j'ai 12 ans et je voudrais savoir pourquoi nous avons des croyances. Merci de me répondre. Au revoir.
Nous avons proposé ta question à un philosophe, Charles Pépin.
Alors, pour répondre à cette très belle question de Maud, il faut commencer par distinguer la croyance du savoir. Le savoir, c'est démontré, c'est attesté par l'expérience ou par une démonstration. Et la croyance, c'est d'accorder du crédit à quelque chose qui n'est pas sûr, dont la réalité est en doute, dont la réalité est hypothétique. Alors pourquoi on a besoin de croire? Pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas vivre dans les limites de ce qu'on sait. On a besoin d'aller au-delà de ce qu'on sait. On en a besoin pour prendre des décisions, parce que vous avez remarqué, dans la vie, souvent, on doit décider. Et puis, en fait, on ne peut pas être sûr que c'est la bonne décision. Donc, si on n'avait pas une croyance qui nous fait pencher d'un côté plutôt que de l'autre, on n'arriverait pas à décider, à faire ce saut comme ça dans l'inconnu. Donc on a besoin de cette croyance pour trancher dans l'incertitude. On a aussi besoin de la croyance pour espérer quelque chose qui n'est pas prouvé, comme par exemple l'arrivée du prince charmant, le bonheur, la vie éternelle, la vie après la mort, ou même tout simplement qu'on va régler tel problème. Si on se contentait finalement de ce qu'on sait, le plus souvent on resterait figé dans l'immobilité, et donc on a besoin de croyances pour vivre d'une manière qui ne soit pas restreinte aux limites de ce qu'on sait.
Charles Pépin, est-ce que la croyance est le contraire du doute ?
Alors non, surtout pas. De dire que c'est le contraire du doute, ce serait tomber dans le fanatisme avec un risque important. Par définition, souvenez-vous de la distinction entre croire et savoir. Par définition, si je crois, c'est que je crois en quelque chose qui n'est pas sûr. Dès lors que je suis sûr de l'existence de ce qui n'est pas sûr, il y a un risque d'intégrisme, de violence, de fanatisme ou d'intolérance. Voilà pourquoi il faut, mais c'est difficile, savoir croire tout en intégrant une dimension de doute à sa croyance. C'est-à-dire, au fond, croire en quelque chose tout en sachant que ça n'est qu'une croyance et que ça n'est pas un savoir. Pour le dire d'une phrase un peu ramassée, on pourrait dire que c'est bien de savoir, c'est beau de croire, mais il faut savoir que croire n'est pas savoir.
Voilà, Charles Pépin est philosophe et romancier, il anime les lundis philo. Vous trouverez les références sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, je m'appelle Achille et je voudrais savoir à quelle température chauffe-t-on le sable pour qu'il devienne du verre. Merci.
Tu as vraiment une voix mignonne, Achille. Wilfried Alain, vous êtes souffleur de verre à la flamme. Pouvez-vous répondre à Achille ?
Oui, tout à fait. Alors, pour fabriquer du verre, on utilise principalement ce qu'on appelle, on va dire généralement du sable, mais plus précisément de la silice. Alors la silice toute seule, si on la chauffe, on va obtenir du verre. Mais il va falloir la chauffer à plus de 1700 degrés. Mais étant donné qu'on essaye d'économiser un peu l'énergie, dans la recette, dans la pâte à crêpes, on va ajouter à la silice, on va ajouter deux ingrédients qu'on appelle des fondants, qui vont nous permettre d'abaisser la température de vitrification de ce verre.
Vitrification, ça veut dire
fondre. C'est le moment où le sable devient du verre. D'accord. C'est la transformation physique. On ne reviendra jamais en arrière. C'est-à-dire qu'à partir du verre, on ne peut plus obtenir de la silice ou du sable. Et cette transformation, ça s'appelle en physique la vitrification. Donc la vitrification s'obtient grâce à nos fondants à une température moindre, environ 1550 degrés. En fonction des proportions de nos adjuvants avec la silice, on peut même baisser un petit peu plus bas encore. On va avoir donc différents verres en fonction de la recette précise. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des verres avec du plomb, vous allez obtenir du cristal. Donc il faut un minimum de 24% de plomb pour pouvoir s'appeler, pour que le verre puisse s'appeler du cristal, c'est une norme. Si vous n'avez pas du tout de plomb et que vous rajoutez du bore, vous allez fabriquer mon verre. Du bore, c'est un élément de la nature qui fait partie du tableau.
Vous l'écrivez comment ?
B-O-R-E. Et donc, si vous rajoutez du bore à la recette, vous enlevez le plomb, donc il n'y a pas de métaux, et vous faites la recette précise avec des oxydes d'aluminium, vous obtenez le verre borosilicate, qui est donc le verre que moi, personnellement, je travaille à la flamme, qu'on appelle également le pyrex. Ça lui donne une caractéristique hyper intéressante dans mon métier, c'est une capacité à résister aux variations de température. Ah oui. Son coefficient de dilatation est extrêmement bas, donc il ne se mélange pas aux autres verres, à tel point que la méthode de fabrication, la méthode de travail de ce verre-là, après, a complètement évolué. On ne travaille plus du tout, nous, avec une canne, un four et une canne, on va travailler plutôt avec des tubes qui sont fabriqués par deux usines en Europe, en amont, et ensuite on va transformer ces tubes pour en faire, par exemple, un sablier.
Donc vous prenez un tube et vous le déformez pour voilà. Le reformer à votre convenance.
Alors on va pas aller jusqu'à la température de fusion, on va simplement se contenter de la température de ramollissement. Et donc en utilisant les mêmes principes physiques que les autres souffleurs de verre, on va le souffler avec notre bouche et en obtenir des objets. Donc on part d'un tube, à partir d'un tube, je peux vous fabriquer une théière, un sablier, une lampe.
Voilà, une théière ?
Une théière. On peut fabriquer une théière. Dans ma collection, j'ai une théière avec une charnière en verre. Sans clou, sans colle, sans vis, sans rien du tout, que du verre. Et elle fonctionne.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Mes femmes sont assoupies et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant charité, le soleil, la peine, le jour et le diable, la beauté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, ni guitare, ni tambour. Certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. sur la ville, il fait trop chaud pour ne point entendre son chant. Des hommes ferment leurs carreaux comme une porte entre mort et vivant. Ah, si certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant à la mort, pleurent les hommes.
C'était Sur la place, une chanson de Jacques Brel, reprise par Birds on a Wire. Le duo est composé de Rosemary Stanley, qui est une chanteuse violoncelliste, et de Tom Lanena.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous posent des questions sur notre répondeur et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Alors ce soir, nous saurons par exemple pourquoi les Astérix ont changé de couleur et pourquoi notre cœur bat très fort quand on a peur. Et pour l'heure, nous allons traverser la Manche.
Bonjour, je m'appelle Martine. Je voudrais savoir si la reine d'Angleterre a de l'humour et si elle rit parfois. Merci beaucoup. Au revoir les petits bateaux.
Bonsoir Martine. Alors le titre du dernier livre de Stephen Clarke répond à ta question. Ce livre, Martine, s'appelle Élisabeth II ou l'humour souverain et c'est édité chez Albin Michel. Donc on comprend, pour répondre à Martine, que oui, elle a de l'humour et vous dites même dans votre livre qu'elle a un rire qu'on entend dans toute la maison.
Oui, c'est ça. Et si elle fait une blague et on ne rit pas, on est envoyé tout de suite à la Tour de Londres.
D'accord.
Pendant 20 ans. Oui, elle.
Mais est-ce qu'elles sont drôles, ces blagues?
Pas toujours très très drôle, mais c'est pas une comique professionnelle. Mais oui, elle a le sens de l'humour. Elle a surtout le sens, ce que j'ai trouvé, de ce sens de l'humour décalé. Ça veut dire qu'elle comprend très bien la différence entre elle comme personne, une petite dame, et la reine qui porte la couronne, qui porte les fourrures pendant les cérémonies. Elle apprécie les décalages entre ces deux personnes, en fait. Elle les comprend très bien. Donc, elle prend très au sérieux sa fonction comme reine, mais elle sait très bien qu'elle n'est qu'une dame qui remplit ses fonctions. Et donc,
c'est plutôt signe d'intelligence que signe d'humour.
Oui, mais elle en fait de l'humour. D'accord. Par exemple, juste avant son couronnement, elle était en couronne avec les longues robes en velours et en
fourrure. Elle était très jeune.
Oui, elle était très jeune. Donc, juste avant la cérémonie, il fallait qu'elle marche le long de la cathédrale de Westminster Abbey, devant tous les lords, devant toute la famille royale et tout, très jeune. L'archevêque de Canterbury était à côté d'elle. Elle lui a dit, donnez-moi un petit coup dans le dos pour me démarrer. Et aussi, on lui avait demandé avant la cérémonie si elle était nerveuse. Elle a dit oui, parce qu'un de mes chevaux court aujourd'hui et je ne suis pas sûr qu'il va gagner. Mais je veux dire, le décalage, l'humour un peu... C'est un humour très anglais, ça, genre l'autodérision un peu. Et elle a ça. Et c'est vrai que les Anglais apprécient beaucoup ça. On adore voir dans les journaux les photos assez souvent quand elle est en train de rire. On adore quand les gens, dans des rôles importants, ont le sens de l'humour. Et par contre, on n'apprécie pas du tout quand ils ne l'ont pas. Ouais. Et la reine, justement, elle fait des petites blagues. Pour le livre, j'ai découvert qu'elle a fait une super blague à des évêques. Elle avait reçu des évêques anglais chez elle à Buckingham Palace. Et à un moment donné, un majordome est arrivé avec un plateau, avec une assiette de biscuits. Et il pose sur une table. Et un des évêques qui se sert, avant la reine, il se sert. Elle le laisse à commencer à manger ses biscuits avant de lui dire qu'en fait c'était des croquettes pour ses chiens. Mais elle a laissé manger avant. Donc c'est un humour assez gentil, mais qui se moque un peu du pouvoir. C'est très bien ça.
Ce tout petit accent anglais de Stephen Clarke, il faut dire que c'est un charme fou.
Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi notre cœur bat très fort quand on a peur. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Jules, c'est le professeur Jean-Noël Fabiani qui est chef de service de chirurgie cardiaque, à peu près en face de la maison de la radio, à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui va te répondre. Pourquoi notre cœur bat très fort quand on a peur, demande Jules.
Bonsoir Jules, tu poses une très bonne question. Notre cœur est une pompe, mais c'est une pompe qui est soumise à des accélérations qui viennent d'hormones. Et là, en l'occurrence, il y a une hormone qui est sécrétée par une glande qui s'appelle la surrénale et qui est l'hormone de la peur. Et cette hormone, eh bien, elle fait battre le cœur plus vite et plus fort. Pourquoi? Bien parce que lorsque nous étions encore des hommes des cavernes, et lorsqu'il y avait devant nous un félin, une grosse bête, qu'il fallait prendre ses jambes à son cou pour lui échapper, eh bien, notre hormone de la peur était sécrétée, faisait battre le cœur très vite et très fort, et nous permettait ainsi d'échapper à ce monstre.
Donc les surrénales, c'est vers les reins?
Les surrénales, c'est au-dessus des reins.
Mais finalement, pourquoi la résonance et dans le cœur, parce que ce n'est pas le cœur qui actionne les jambes?
Ah si, bien entendu.
Ah bon ?
Le cœur, en se contractant plus fort et plus vite, eh bien, il va permettre d'augmenter la pression artérielle, donc le sang et la quantité de sang qui arrive au niveau des muscles et qui permet de prendre les jambes à son cou.
C'est le moteur, en fait.
C'est le moteur. Si la pompe ne marche pas, les jambes ne marcheront pas. Mais celui qui déclenche tout, bien sûr, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui a peur. Et donc, qui fait déclencher la sécrétion de l'hormone par la surrénale, cette hormone va jusqu'au cœur et la machine se met en route, comme je viens de vous l'expliquer. Le cerveau, c'est le pilote, c'est lui qui voit tout, qui fait tout, qui décide tout.
Les histoires insolites de la médecine du professeur Fabiani sont maintenant sorties en BD aux éditions Les Arènes sous le titre « L'incroyable histoire de la médecine ».
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Les Français qui, comme chacun sait, ne connaissent pas leur géographie, connaissent cependant la ville de Manchester pour ses équipes de football et pour le groupe Oasis.
Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 10 ans. En fait, j'ai toute la collection des albums d'Astérix et je voudrais savoir pourquoi les premiers albums n'ont pas la même couleur. Merci, au revoir.
Bonsoir Lola, tu as de la chance, c'est chouette de posséder toute la collection des albums d'Astérix. Jessica Cohn, vous êtes chercheuse en histoire du dessin. Vous pouvez répondre à cette interrogation, pourquoi ils n'ont pas la même couleur au début et puis ensuite?
Déjà, bravo Lola, parce que tu as un bon œil pour l'avoir remarqué. Et c'est vrai que la couleur des albums d'Astérix Obélix, elle change. Et elle change à la fois parce que les techniques ont évolué et puis parce que le coloriste, la personne qui se chargeait de faire la couleur des albums, a changé.
C'est un job à part entière ?
Ça dépend des fois. Il y a des dessinateurs qui aiment faire eux-mêmes la colorisation de leurs planches. Il y en a d'autres pour qui ça prend trop de temps. Et puis, il y en a encore d'autres, comme Uderzo, qui sont daltoniens et à qui on n'a pas du tout envie de confier la colorisation des albums.
Non, c'est une blague, il était vraiment daltonien.
C'est pas du tout une blague. Pendant longtemps, il a cru que Obélix avait les cheveux verts. Donc, on ne lui a pas confié la colorisation de ses albums. Ça aurait donné un style un peu pop art, très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, on a d'abord confié la colorisation à Claude Poppé, qui était une des petites mains de Pilote, du journal Pilote où c'était publié, qui a colorisé ça un peu rapidement, puisque c'était une publication hebdomadaire, donc il fallait y aller vite. Et comme c'était du dessin d'humour et pas du dessin réaliste, on prêtait pas énormément d'attention à la qualité des couleurs. Alors que pour d'autres séries de Pilote, on prêtait beaucoup plus d'attention. Et puis quand on a commencé à les publier en album cartonné, au tout début, le directeur de la publication, Georges Dargaud, se disait que ça allait pas forcément marcher, qu'il fallait pas y mettre beaucoup d'argent, donc on a gardé ses couleurs. Ces couleurs un peu bizarres finalement, en fait, un peu trop rapidement. Au bout de 5 albums d'Astérix et Obélix, voilà, et du succès que ça a rencontré, les directeurs se sont dit qu'il fallait peut-être changer un peu de technique. Et ils ont changé de coloriste. C'est mis à la tâche à partir du 6e album, qui est Astérix et Cléopâtre, que tu dois connaître par cœur. C'est mis à la tâche le frère d'Albert Uderzo, Marcel Uderzo, qui lui aussi avait envie de dessiner. Et il a colorisé, je crois, près d'une vingtaine d'albums d'Astérix et Obélix. À un moment, pour un album, il a été remplacé par une femme, Evelyne Tranlé, qui s'est occupée de coloriser le bouclier Averne. Mais elle n'a pas voulu recommencer parce que dessiner les brais, le pantalon rayé bleu et blanc de tous les Gaulois, c'était beaucoup trop fastidieux et au bout d'un album, elle n'en pouvait plus.
C'est vrai que c'était bien, bien, bien avant l'invention de l'ordinateur, tout ça se faisait à la main.
Exactement. En fait, on utilisait à l'époque ce qu'on appelle un bleu d'imprimerie. Le bleu d'imprimerie, c'était la bande dessinée, mais en une seule couleur, monochrome, toute bleue. Pourquoi toute bleue ? Parce que les émulsions chimiques de la grande machine d'impression, elles ne réagissent pas au bleu. Donc ça permettait de fixer toutes les autres couleurs. Et donc on dessinait là-dessus, dans une seule teinte, sans pouvoir faire de dégradé. C'était uniquement des aplats de couleurs. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est plus du tout les mêmes techniques. Maintenant, on a des équipes entières qui peuvent s'occuper de faire la couleur d'une bande dessinée. Ou à l'inverse, on peut demander au dessinateur lui-même de s'occuper à la fois de dessiner sa bande, de la scanner et de la traiter. Ce qui fait que du trait jusqu'à la couleur, c'est beaucoup plus cohérent, puisque les tâches sont moins fragmentées.
Cela dit, dans la bande dessinée classique, Jessica Cohn, j'imagine qu'il y a des dessinateurs qui devaient être un petit peu perfectionnistes ou qui ne savaient pas tellement déléguer ou qui avaient tout simplement plaisir à le faire et qui faisaient eux-mêmes leurs couleurs. Est-ce que, par exemple, Hergé, il faisait tout seul ?
Surtout pas Hergé.
Ah bon ?
Hergé, il a mis en place très rapidement, avec le succès de Tintin, un studio, le studio Hergé. Un des premiers studios de bande dessinée dans l'espace franco-belge. Lui, il crayonnait les visages. Et puis ses assistants ancraient les personnages, faisaient les décors, faisaient la couleur. Hergé, finalement, c'était surtout un donneur d'ordre.
Et voilà, La fille de Vercingétorix, c'est donc le dernier album d'Astérix. Et vous rappelez-vous du titre du premier, Astérix le Gaulois. Vous venez d'entendre une rediffusion des Petits Bateaux du 3 novembre 2019. Ces Petits Bateaux sont à podcaster ou à réécouter sur franceinter.fr. Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Attention, le grand absent de l'été, c'est notre répondeur qui est parti se tremper les pieds.